Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Au moment où le monde retient son souffle et analyse l'attaque samedi de l'Iran contre Israël, attaque sans dégâts majeurs qui montre l'efficacité du dôme de fer, au moment où le monde craint un conflit généralisé, chacun aura pu observer qu'en France, à l'extrême gauche, la détestation d'Israël et la haine du juif avancent à visage découvert. Cela va d'une ancienne basketteuse de l'équipe de France, Émilie Gomis, qui explique que l'Iran a le droit de se défendre, à une députée de la France insoumise, Ersilia Soudet, qui renvoie dos à dos le régime des Mollahs à la démocratie israélienne et soutient que l'Iran et Israël sont deux théocraties. Je pourrais aussi citer cette réunion de LFI à Montpellier, durant lesquelles les militants ont crié « Palestine vaincra » et « Israël assassin ». Tout ça se fait sous nos yeux, sans provoquer des condamnations tous azimuts. J'observe aussi, comme toujours, deux poids, deux mesures dans l'espace médiatique. La moindre nuance apportée dans la guerre Russie-Ukraine est immédiatement analysée comme un soutien pro-russe et son auteur est cloué au pilori. En revanche, il est de bon ton d'accuser Israël de tous les maux, comme de laisser l'antisémitisme et l'antisionisme gagner du terrain. Appelons ça le privilège rouge. Il se porte en bandoulière. La plupart regardent ailleurs, d'autres approuvent. Pour tous, le 7 octobre est déjà oublié. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La France va tout faire pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron il y a quelques minutes chez nos confrères de RMC. Le président de la République a condamné l'attaque sans précédent menée par l'Iran contre Israël. Selon lui, avec cette offensive, Téhéran a provoqué une rupture profonde. C'est une question qui revient souvent quand on parle d'insécurité en France. Est-ce qu'il faut systématiser le port d'armes pour les policiers municipaux? Plus de la moitié des Français se disent favorables dans notre dernier sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1, 59% exactement, 40% sont contre et 1% ne se prononcent pas. Et à propos de sécurité, Éric Dupond-Moretti s'attaque à la délinquance des mineurs. Le ministre de la Justice prépare un projet de loi. Il veut notamment renforcer les sanctions contre les parents. William Maury du syndicat de Police Alliance propose une mesure radicale. Écoutez.
Croyez-moi que si vous allez chercher les parents en même temps que lui et que vous les placez aussi en garde à vue, ça va faire réfléchir tout le monde. Ça va faire réfléchir le mineur, mais aussi les parents, et peut-être prendre conscience qu'ils sont justement parents et qu'ils ont un rôle éducatif à prendre en compte. Parce que c'est ça aussi la réalité du terrain. Les parents, ils n'en ont strictement rien à faire.
Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana Lousteau. Nous sommes ce matin avec Elisabeth Lévy, avec Philippe Guibert, avec Vincent Herouet, avec Nathan Devers, avec Gauthier Lebret et avec le général Clermont que vous connaissez. Merci, mon général, de rester avec nous. Parmi toutes les images que je voulais vous proposer ce matin, peut-être, Vincent Herouet, la plus forte, peut-être est-ce celle que vous allez voir à l'instant, écouter à l'instant, c'est le Parlement iranien. Tous les députés sont là, ça montre l'état du pays, qui crie mort à Israël. Écoutez cette séquence. Mort en Israël.
Oui, donc, c'est 45 ans que ça dure.
Oui, mais c'est important quand même de le mettre peut-être en perspective.
Oui, tout à fait. C'est le mantra, c'est l'alpha et l'oméga du discours de la République islamique. Mort à Israël, sur tous les tons, dans tous les meetings, en affiches, en fresques murales, en slogans répétés à satiété. Et on dirait même, je vous dirais, qu'on a l'impression que c'est la seule chose, finalement, que la République islamique est à offrir aux Iraniens, à 88 millions d'Iraniens ruinés par la débâcle de l'économie, par la répression, par la médiocrité de ses dirigeants et la corruption générale aussi. Donc je veux dire, mort à Israël, c'est... Voilà, c'est ce que la République islamique ne cesse de répéter. Alors là, vous avez un parlement croupion dans une salle qui est assez impressionnante par son architecture. Vous avez cette espèce de... Mais bon, ça signifie rien.
On va essayer de faire un peu de pédagogie, évidemment, ce matin. Pourquoi l'Iran a attaqué Israël? Et visiblement, c'est un échec. Le dôme de fer a été efficace. Et au-delà du dôme de fer, ça a permis à Israël de retrouver des soutiens diplomatiques qu'Israël n'avait peut-être pas. Donc c'est
le plus spectaculaire en français.
Voilà, c'est sans doute contre-productif. Donc d'abord, pour ceux qui connaissent mal cette situation, pourquoi l'Iran a déclenché sa
le 1er avril, il faut revenir un peu en arrière, pas trop loin, 15 jours, le 1er avril, Israël, bien qu'il ne l'ait jamais revendiqué, mais tout le monde sait que c'est eux, les Israéliens ont pulvérisé, avec deux missiles très bien ajustés, un bâtiment dans l'enceinte diplomatique iranienne à Damas. Et ils ont, sous les décombres, tué donc une dizaine de gardiens de la Révolution, dont deux généraux, dont le responsable des gardiens de la Révolution pour la Syrie. Ça a vraiment été une attaque parfaitement mené.
Pourquoi ?
Avec une grande économie de moyens. Parce que les gardiens de la Révolution, c'est l'ennemi irréductible d'Israël au Liban, en Syrie, partout. C'est eux qui mènent le fer, qui combattent Israël.
Donc l'Iran
a répondu. Donc l'Iran a considéré que c'était une attaque contre le territoire iranien, puisque c'était l'ambassade, ce qui est discutable d'ailleurs en termes juridiques. Ils ont, et en conséquence de quoi, ils ont juré qu'ils riposteraient. La riposte est arrivée, ils l'ont annoncé 72 heures à l'avance, ils ont prévenu tout le monde, et ils ont attaqué uniquement des bâtiments militaires, ils n'ont pas attaqué les civils. C'est le contraire du 7 avril. Ce qui s'est passé hier, c'est le contraire du 7 avril. Parce que le 7 octobre, si vous voulez, c'est un massacre qui prend par surprise les Israéliens. L'ennemi, on le connaît, mais il surprend tout le monde, il terrorise, il tue des civils, il est fait pour susciter la terreur et en même temps la honte de la défaite. Là, c'est une attaque menée par un ennemi que l'on connaît, qui annonce ce qu'il va faire, qui prévient tout le monde que c'est un coup, un seul, et qu'après l'affaire sera close, que c'est juste des représailles et une riposte. Et même si les Iraniens, pour la première fois, franchissent le Rubicon, ça fait 45 ans qu'ils mènent une guerre à Israël par des moyens détournés, pour la première fois, ils frappent le territoire israélien avec des missiles, avec tout ce qu'il faut. Mais bon, c'est une attaque qui est très limitée.
On va voir le sujet de Solène Boulan et voir peut-être si l'Iran a surestimé son efficacité. Parce qu'à l'arrivée, chacun s'accorde à dire que c'est un échec, et notamment avec ce dôme de fer qui est d'une très grande efficacité. Voyez le sujet de Solène Boulan.
Il est près de 22 heures ce samedi à Jérusalem, lorsque des détonations retentissent dans la ville. Quelques instants plus tard, les sirènes d'alerte ordonnent aux habitants de rentrer chez eux. Israël est alors la cible d'une attaque de la part de l'Iran, au cours de laquelle plus de 300 drones et missiles sont lancés. Dans le ciel de Jérusalem, des lumières scintillent. Pour les habitants commence une longue nuit d'angoisse.
Dans le ciel, des étoiles filantes, des drones, on ne savait pas exactement ce que c'était, mais en tout cas, on a vu beaucoup de mouvements aériens.
Il a fallu d'abord prendre des nouvelles des familles, savoir qui avait un abri, qui n'en avait pas. Certaines familles se sont réunies, etc., etc. Rassurer les enfants pour qui c'est pas facile depuis 6 mois.
On a mis les matelas dans l'abri. Moi, j'ai 3 enfants à la maison. On a entendu des explosions énormes. Ça n'avait rien à voir avec les roquettes qui sont lancées par le Hamas. Des explosions énormes. La maison, elle a tremblé.
99% des tirs iraniens ont été interceptés selon l'armée israélienne grâce à leur système de défense militaire couplé à l'aide des forces américaines. En Iran, l'attaque a suscité des rassemblements festifs dans la capitale Téhéran. Les dirigeants iraniens avaient promis de punir Israël après une frappe qui a détruit le consulat iranien à Damas le 1er avril et tué 7 membres des gardiens de la révolution.
Le général Clermont est avec nous. Paraît-il que le premier élément d'une guerre, c'est de déclencher qu'une guerre qu'on est sûr de gagner. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de guerre. Là, manifestement, l'Iran a sous-estimé son potentiel puisque c'est un échec total en termes militaires.
Oui, bien sûr. Mais visiblement, l'Iran ne cherchait pas à déclencher la guerre contre Israël. L'Iran cherchait à faire une frappe militaire puissante, sans doute plus puissante que ce qu'ils ont obtenu. Bon, l'objectif était quand même très en dessous de ce qu'ils voulaient, même s'ils ne voulaient pas déclencher la guerre, parce que non seulement le dôme de fer a arrêté les quelques missiles qui ont réussi à passer, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les alliés se sont réunis, se sont coalisés pour mettre en l'air des avions américains, britanniques, jordaniens, pour intercepter les missiles et les drones avant qu'ils ne pénètrent le territoire israélien. Et ça, ça s'est passé en Jordanie, ça s'est passé au-dessus de l'Irak. Donc non seulement c'est un échec militaire, puisqu'il n'y a pas d'effet militaire conséquent, mais en plus ils ont réussi comme conséquence de faire que les soutiens d'Israël se révèlent comme étant de véritables soutiens qui étaient prêts à prendre les armes contre l'Iran. Donc de ce point de vue-là, c'est un double échec.
On va évidemment, il y a beaucoup de possibilités de parler de ce sujet-là. Mais je voulais aussi, dans cette première partie, qu'on parle de ce qui se passe en France. Et tout de suite, on l'a dit, la réaction française est intéressante. On a vu cette ancienne basketteuse qui s'appelle Émilie Gomis, qui a réagi immédiatement sur le thème l'Iran se défend. Ah. Il y a également Ercilia Soudet qui a dit que ces deux pays sont des théocraties. J'ai vu que ce petit débat sur la théocratie existait ce week-end. C'est pour ça que je voulais mettre en parallèle d'abord ce qui s'est passé là-bas, et on y reviendra tout à l'heure, notamment avec les déclarations de l'ONU, mais également ce qui s'est passé chez nous en France. Et vous montrer ce meeting à Montpellier où vous allez entendre des militants crier Israël assassin, et tout ça se passe en France, et c'est assez peu, me semble-t-il, mis aux yeux et aux oreilles du public. Écoutez cette séquence.
Bon, c'est exactement ça.
Je le dis pour nos amis d'Europe 1 qui ne voient pas ces images. On entend Israël assassin, Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi, etc., etc. Donc ça se passe quand même en France. Et vous allez écouter Rima Hassan qui est sur la liste de la France insoumise. Et je voulais vous faire réagir là-dessus dans cette première partie.
La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine, comme va le faire l'Irlande et l'Espagne, pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens. Nous sommes le camp de la paix.
Bon, là, on est sur de la politique intérieure.
Bien sûr.
Et de la communication intérieure, parce que les Européennes arrivent. Et je voulais vraiment qu'on décrypte ça, parce que ça me paraît extrêmement important.
Non, mais ils ne scandent pas encore mort à Israël comme en Iran, mais on n'en est pas si loin. Israël, casse-toi. Ça veut dire quoi ? From the river to the sea, du Jourdain à la mer Méditerranée, c'est la disparition pure et simple d'Israël. Que veut Émilie Gomis ? Parce qu'elle dit, Émilie Gomis...
C'est une ancienne basketteuse.
Basketteuse qui a perdu son poste d'ambassadrice des JO.
Non, nous sommes d'accord.
Parce qu'elle avait déjà fait l'apologie du Hamas. Oui. Donc, Émilie Gomis, elle dit, le Hamas a raison d'attaquer, l'Iran a le droit de se défendre, mais Israël, jamais. Israël n'a jamais le droit de se défendre. Israël doit subir, et au fond, Israël, pour eux, doit disparaître. C'est ça que pense Émilie Gomis, c'est ça que pense Ercilia Soudet. Je peux faire la liste complète depuis le 7 octobre, des dérapages d'Ercilia Soudet, députée de la France Insoumise, qui est quand même, il faut le rappeler, vice-présidente du groupe d'études à l'Assemblée contre l'antisémitisme.
Mais bien sûr,
c'est le poste qu'elle a, Ersilia Soudé. Elle a tenté d'inviter une représentante du FPLP à l'Assemblée. Elle s'est ensuite opposée à son expulsion voulue par Gérald Darmanin. Elle s'est affichée avec Salah Hamouri, franco-palestinien mis en cause dans la tentative d'assassinat d'un rabbin. Donc voilà, tout ça est logique et pas étonnant.
Et Frédéric Aziza, que vous connaissez sur Radio J. Non mais c'est intéressant parce qu'il a mis en ligne tout à l'heure une affiche Libre Palestine, ce logo apposé sur l'affiche de Jean-Luc Mélenchon pour son meeting du 18 avril à l'Université de Lille, assume donc la Palestine libre de la mer au Jourdain, prônée par Madame Rima Hassan. En clair, la destruction de l'État d'Israël devient un thème de campagne.
Bien sûr.
Donc c'est ça me... Comment ?
Je trouve ça formidable d'importer chez nous un conflit insoluble. Et vous savez, la guerre, il n'y a que des mauvaises solutions. Donc c'est extrêmement...
Non mais c'est très intéressant. En fait, c'est la première fois, c'est la première fois dans l'histoire de cette région... Et c'est, je le répète, c'est pourquoi j'ai voulu vous entendre là-dessus, que ce conflit importé pour les raisons que nous savons, parce qu'il y a une immigration très forte en France, on voit bien les conséquences en l'espèce d'une immigration forte, et que c'est un nouvel électorat qui est visé à travers cela.
Vous avez tout à fait raison. Il y a une chose qui, à mon avis, qui est importante. J'enlèverai le mot dans ce que vous avez dit, Gauthier, le mot pense. Ersilia Soudé pense.
Vous avez raison, c'était lui prêter trop d'ambition.
Parce que ces gens-là connaissent rien à la Palestine. Il y a eu ce moment magnifique de vérité quand Mathilde Panot est interviewée par un journaliste qui s'appelle Steve Jourdain sur la chaîne parlementaire. Il lui demande est-ce que la Palestine est à l'est ou à l'ouest du Jourdain et qu'elle est incapable de répondre à cette question.
Oui.
Ce qui, à mon avis, est en train de se jouer, c'est que Kamel Daoud a magnifiquement décrit la manière dont, dans son pays, en Algérie, la cause palestinienne était fétichisé, mais pas du tout pour défendre la réalité de la Palestine. Ça devenait une sorte d'idée abstraite, de fétiche, destinée à devenir le cache-sexe de toutes les répressions, de toutes les privations de droits civiques, de tous les blocages, de tout ce qui est des paralysies empêtraient le régime algérien. Et c'est exactement ce qu'on voit à l'échelle des engagements politiques que vous venez de citer aujourd'hui, de la part, je rappelle juste, de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui approuvait les bombardements russes sur les populations civiles en disant que Poutine faisait le travail en Syrie.
Philippe Guibert disait, avant de vous donner la parole, Vincent, c'est la première fois. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Oui, parce que ça n'a jamais été la position de la gauche dans les années 70, 80, 90. Il y a toujours eu, dans la gauche dominante en tout cas, une volonté d'équilibre entre la sécurité d'Israël et puis les droits des Palestiniens. C'était la position constante d'un Mitterrand, par exemple. Et donc là, il y a une bascule complète où une partie de la gauche, et les filles, considèrent qu'Israël est toujours coupable. Israël est toujours, quoi qu'il se passe, Israël est toujours coupable parce qu'au fond, Israël est illégitime à leurs yeux. Donc là, il y a vraiment une bascule très importante. Et pour moi, qui suis la gauche depuis quand même quelques décennies, c'est en effet la première fois que je vois ça. Je ne vois pas de précédent.
Bon, est-ce que Israël va répondre ?
Juste un mot pour ajouter, c'est que depuis Mitterrand, ce n'est pas les mêmes Palestiniens quand même. Là, c'est le Hamas.
Oui, vous avez raison.
L'Organisation de libération de la Palestine.
Vous avez raison.
C'est pas le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP dont on parlait tout à l'heure. C'est pas des organisations laïques. C'est une organisation islamiste soutenue par une théocratie qui se veut effectivement la République islamique d'Iran. Fin de la parenthèse. Est-ce qu'Israël va riposter ?
Oui.
Évidemment. C'est impossible de pas riposter. Vous êtes obligé de riposter. C'est une question de crédibilité. Est-ce que Israël va aller bombarder les sites nucléaires iraniens et que ce soit le grand règlement de compte attendu depuis si longtemps ? Sûrement pas, parce qu'il y a une campagne, parce qu'ils ont besoin des Américains pour le faire, a priori, et que la campagne américaine est en cours et que ça ne fait pas partie du programme électoral de Joe Biden d'avoir une flambée des cours du pétrole, une querelle avec le Moscou, un bras de fer avec Pékin. Non, ça n'aura pas lieu. Mais il y aura une riposte sur d'autres fronts subalternes. Aujourd'hui, ce matin, je peux vous assurer que les Libanais, par exemple, rentrent la tête dans les épaules, que le Hezbollah est sur le qui-vive, etc. etc.
Position des États-Unis.
La guerre habituelle.
Position des États-Unis.
La position des États-Unis, on l'a vu, là, il y a eu Netanyahou a eu pendant une demi-heure au bout du fil Joe Biden. Ça a dû leur coûter à l'un comme à l'autre. Mais il y a eu une solidarité qui s'est manifestée, claire, nette.
Mais les États-Unis
ne... Les pays occidentaux, d'ailleurs. La France elle-même, j'insiste là-dessus. Il y a quelques jours, il y a cinq jours à peine, le ministre des Affaires étrangères français envisageait des sanctions
les États-Unis.
Attendez, réalisez. Il y a cinq jours, on a été à envisager des sanctions.
Je termine sur les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas d'un conflit généralisé. C'est la politique. C'est...
Ils ne veulent surtout pas d'escalade. Oui, ils veulent que tout ça se calme. Et les Iraniens aussi. Et on peut se demander d'ailleurs quel est le drôle de tango que jouent Américains et Iraniens en ce moment. C'est un peu subtil, mais il y a quand même une histoire qui est... Si vous voulez, derrière l'apparence des choses, derrière le grand branle de la guerre, derrière tout ce théâtre aux armées, il y a aussi des tractations diplomatiques qui sont curieuses. Il y a un jeu, un jeu de rôle, là.
Oui, mais c'est ça qu'il faut que vous nous expliquiez.
Mais non, parce que c'est de la devination, ça, c'est de la, plus de, la, de l'intuition que de l'info. Hein. Mais il y a visiblement, entre Américains et Iraniens, un dialogue qui est en train de se nouer. Et si Biden était reconduit... Je pense que ça irait plus loin. Vous savez, c'était le grand rêve.
Alors, pardonnez-moi, je pense à ceux qui nous écoutent et là, ils sont largués.
Ok, d'accord, pardonnez-moi. Alors, je vous le fais d'un mot, d'un seul. En 15 secondes, il y a l'idée... Autrefois, il y avait une alliance entre le Shah d'Iran, entre l'Iran impérial et les États-Unis.
Nous sommes d'accord.
Quand vous parlez de l'Occident aux Iraniens, quand vous allez à Téhéran et vous parlez avec les Iraniens, ils ne pensent qu'à un seul interlocuteur. C'est comme les Russes, ils ne pensent qu'à l'Amérique. L'Europe existe à peine. Ils ne pensent qu'à l'Amérique. Et je pense que le grand accord régional dont les Américains étaient autrefois porteurs, entre le grand accord régional entre les chiites, les sunnites, Israël, le grand accord sécuritaire sur la région, ça se jouera entre l'Iran et les États-Unis le jour où ils arriveront à se
Elisabeth
parler vraiment.
Elisabeth Lévy qui n'a pas parlé encore.
Sur le premier débat en France, je suis quand même frappée qu'au moment où beaucoup de dirigeants arabes, en tous les cas un certain nombre, ont renoncé à agiter l'antisémitisme comme ciment de leur peuple, comme d'ailleurs le père de Assad, le Hafez al-Assad, l'avait dit très clairement, avait dit pour nous l'antisémitisme c'est un moyen d'unir le peuple, la haine des juifs. Au moment où ils ont renoncé, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe en France. Et la deuxième chose, mais c'est plutôt une interrogation, en Israël, depuis très longtemps, et dans toute la communauté stratégique, et à droite et à gauche, disons, c'est assez répandu, les Israéliens pensent que globalement, l'Occident sous-estime grandement le danger iranien. Ça fait des années qu'ils ne disent pas quand, qu'ils ne disent pas est-ce que nous allons avoir une guerre avec l'Iran, mais quand aurons-nous cette guerre. Et je suis étonnée que pour l'instant, on n'ait pas encore dit un mot du fait que l'Iran, d'après Pierre Lelouch, peut-être l'AIEA a dit un peu moins longtemps, mais l'Iran n'est pas non plus très loin de l'arme nucléaire, si vous voulez. Donc, je suis étonné qu'on ne l'ait pas encore mentionné.
Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui vous entendent. L'Iran n'est pas très loin de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Clermont? Qu'est-ce que ça veut dire, ne pas être très loin? Qui a les informations?
L'AIEA.
On n'a plus beaucoup d'informations parce que l'AIEA n'a plus accès aux installations iraniennes. Donc on se projette dans ce qu'on en connaissait. Et de ce qu'on en connaît, ils ont la technologie des missiles, on le sait, puisqu'ils en tirent. D'ailleurs, je signale qu'il y a des missiles balistiques qui sont passés malgré tout. Il y en a qui ne sont pas passés, mais il y en a qui sont passés. Et puis on sait qu'en matière d'enrichissement, bien, ils atteignent les 90%. Et dans pas longtemps, et une fois qu'ils les ont atteints, il suffit de multiplier les quantités d'uranium pour faire des têtes nucléaires. Donc on sait que ça se déroule également. Ça ne veut pas dire que ça va conditionner la riposte israélienne. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Vincent, il faudrait une véritable campagne aérienne. Et ça, sans les Américains, c'est impossible. Mais les Israéliens n'ont que deux solutions s'ils veulent riposter. Et riposteront. Soit ils frappent l'Iran, soit ils ne frappent pas l'Iran. Alors, frapper l'Iran, c'est facile. Le Hezbollah, effectivement, ça serait un moyen de les affaiblir. Frapper l'Iran, c'est un risque, mais peut-être le feront-ils. En tout cas, ils ont les moyens militaires de le faire sans les Américains, une fois, avec des avions, avec leurs sous-marins. Ce n'est pas impossible. Donc attendons de savoir ce que vont faire les Israéliens.
Non, parce qu'on va marquer une pause et exceptionnellement, d'habitude nous avons notre ami Tomeil qui est là et aujourd'hui c'est un jour particulier. Donc exceptionnellement on va peut-être prendre quelques secondes en plus pour saluer un jeune animateur qui va faire ses débuts sur l'antenne d'Europe 1 puisque c'est le joker de Tomeil et c'est notre ami Jean-Pierre Foucault. Ça me fait plaisir évidemment Jean-Pierre de vous voir et c'est vrai que cette semaine puisque Tomeil est en vacances, il a quand même le plus beau joker de l'histoire de la télévision puisque c'est Jean-Pierre Foucault. Non, bon, ça vous fait plaisir cher Jean-Pierre d'être à l'antenne.
Eh bien, ravi de vous voir, Pascal. Je vous suis chaque matin, fidèlement. Je suis heureux d'être là. Mais je rassure tout le monde, uniquement pour 5 jours. Donc, vendredi, c'est décidé. À 11h, je repars.
Oui, mais ça veut dire quand même que le plaisir de ce métier, le plaisir est intact. Le plaisir de faire de la radio, tout simplement le plaisir, ce joli mot.
C'est un plaisir, vous avez raison, intact. J'ai commencé il y a quelques décennies, en 1966. Et donc, ça fait quelques années que j'ai fait de la radio. Je me suis arrêté il y a quelques temps ici à Europe avec Cyril Hanouna. Et me voici de retour pour 5 jours.
Eh ben merci en tout cas, et puis les auditeurs d'Europe 1, on les salue, et vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h, comme tous les jours donc de la semaine, et nous allons poursuivre évidemment l'actualité sur CNews. Après cette pause, il est 9h23, à tout de suite. Le président de la République était ce matin chez nos confrères de RMC, et il a pris la parole, et on va pouvoir l'écouter dans une seconde. Isabelle Piboulot nous rappelle les titres du jour.
La France va tout faire pour éviter l'escalade entre l'Iran et Israël. Déclaration d'Emmanuel Macron chez nos confrères de RMC. Pour le chef de l'État, l'Iran a provoqué une rupture profonde avec cette attaque inédite qu'il juge disproportionnée. Et il précise, la France a procédé à des interceptions à la demande de la Jordanie. Le président de la République a également évoqué les Jeux Olympiques. En cas de menace terroriste, la cérémonie d'ouverture pourrait être limitée au Trocadéro, voire au Stade de France. Si la cérémonie le long de la Seine serait une première, il existe des plans B et même des plans C, a déclaré le chef de l'État. Des analyses des risques seront faites en temps réel. Enfin, le contrôle technique des motos, scooters et voiturettes est désormais obligatoire. Il est à réaliser au plus tard le 31 décembre si votre véhicule a été immatriculé avant le 1er janvier 2017. Pour ceux dont la date d'anniversaire de la mise en circulation tombe avant le 15 avril, il sera effectué d'ici le 14 août.
Merci beaucoup Isabelle. Le président Macron a donc réagi. Écoutons-le.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques parce que nous sommes sur le sol jordanien à la demande de la Jordanie. Nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit en effet de samedi. Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région.
On a découvert d'ailleurs le Grand Palais rénové. Mais vous voyez, chaque mot avec Emmanuel Macron est intéressant, ce qui est bien normal d'ailleurs. Il ne faut pas répondre, il aurait pu s'arrêter là, en escaladant. Donc ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'en escaladant, il y a une part de subjectivité là-dedans. Qu'est-ce que l'escalade ou pas? Est-ce qu'on doit répondre? Alors qu'il ne faut pas répondre, c'eût été fermer la porte à une réponse possible d'Israël. Donc il ne faut pas répondre en escaladant, je l'interprète comme une possibilité à Israël de répondre. Mais peut-être me trompe-je.
C'est subtil, votre...
Je pense que c'est le président qui est subtil.
Personne dans une vie entière.
Non, c'est le président. Non, mais il aurait pu dire « il ne faut pas répondre ».
Non, il l'a précisé. Il a dit que la réponse pouvait potentiellement toucher des cibles militaires, etc. Ah,
il ne faut pas répondre en escaladant.
Oui, mais c'est la réponse à la réponse. Hein. C'est la riposte.
Bon. Donc, quoi que c'est à vous, c'est vous le spécialiste.
C'est un engrenage, en tout cas.
Oui. Moi, je découvre ce qu'il dit.
Voilà. Propos assez lénifiant.
Oui, mais tout pour lénifiant.
Attendez, vous voulez vraiment une vraie réponse?
Oui.
Je parle sincèrement ou
je fais des phrases? Parlez sincèrement.
Il y a 5 Français qui sont retenus en otage en Iran. Nous avons 5 otages d'État. Le terrorisme d'État en Iran, c'est prendre des Français et les jeter à la prison des Vines, c'est-à-dire aux oubliettes, et les ressortir et faire pression ainsi sur la diplomatie française. On en a 5 pour le moment. Peut-être qu'il faut penser aussi aux Français qui sont détenus en Iran et ne pas traiter la République islamique comme n'importe quel pays. C'est-à-dire que faire des phrases pour dire « l'escalade, mais pas trop », qui est-ce que ça trompe?
Il a raison. Mais
qui est-ce que ça impressionne?
Il a raison.
Les Iraniens savent très bien à quoi s'en tenir sur le soutien français.
Il a raison donc de protéger les Français. Vous dites que c'est lénifiant. Il a raison. Non mais je veux avoir le fond de votre pensée.
Le fond de ma pensée, c'est que pendant samedi soir, dans la nuit de samedi dimanche, après avoir été prévenu 3 jours auparavant, les troupes françaises qui sont déployées dans la région ont participé à la neutralisation de tous ces engins envoyés par les Iraniens. On a pris notre part du fardeau et c'est normal parce que quand vous avez des missiles ou des drones qui passent au-dessus de votre emprise, votre base française, il est normal de les neutraliser. Je vous parle. D'accord ?
Oui.
Bon. Donc on a fait ce qu'on avait à faire.
Oui.
Mais on a fait le service minimum. D'accord ? Bon, les Israéliens nous ont remerciés d'une manière très ostentatoire, très appuyée. On va pas. C'était très appuyé la façon dont les Israéliens nous ont dit merci. Donc on ne va pas refuser
deuxième,
les remerciements.
Deuxième passage.
Je voulais poser une question à Vincent Chevat.
Oui.
Est-ce qu'on peut imaginer que dans cette riposte, il puisse y avoir, avec toute la fragilité du régime de Téhéran, quelque chose d'un peu secret, d'un peu caché, d'un peu subtil, impliquant des services pour essayer de renverser le régime, de soutenir des opposants, d'organiser un coup d'État, un truc un peu international. Est-ce que c'est possible, vous pensez, ou pas ?
Le régime est dur, il est solide. Les gardiens de la révolution, ce n'est pas une petite milice. Ce sont des types qui sont prêts à tirer sur la foule. Ils l'ont fait, ils le referont. Ils l'ont fait à chaque fois qu'il y a eu une révolte en Iran, qui a ébranlé le pays parce que le pays n'en peut plus. Parce que les Iraniens n'en peuvent plus. Tous les signes le montrent. Il n'y a pas de sondage, mais il y a toutes sortes de testeurs qui sont en place qui montrent que les Iraniens n'en peuvent plus. Mais ils sont en face d'un appareil d'État qui est implacable, qui est impitoyable et qui est fort.
Emmanuel Macron, deuxième passage et on le commente.
Les Iraniens ont répondu, mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. C'est un changement, une rupture profonde. Et donc c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite.
Moi je vais vous dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue-là, mais on peut très bien le défendre. Moi je pense que quand les Iraniens font sauter à Buenos Aires un centre culturel juif pour frapper Israël... Ça fait des dizaines de morts et c'est une horreur. Les attentats, les campagnes d'attentats menées par les Iraniens de par le monde ont été sanglants et sont bien pires que ce feu d'artifice qu'ils ont lancé hier qui a permis à toutes les armées de faire un baltrap géant. On a neutralisé les missiles comme ça, les uns après les autres. C'était un véritable baltrap avec les armées jordaniennes, américaines, britanniques, françaises. C'était quelque chose d'extravagant. C'est une démonstration de faiblesse. Alors que la capacité de nuisance de l'Iran, on la connaît depuis 45 ans, on l'a éprouvé. Ils ont noyauté tous les pays environnants. Ils ont les Houthis, ils ont le Hezbollah, ils ont le Hamas, ils ont... C'est terrible.
Ce sont les jeunes, me dit-on, les jeunes iraniens dans les villes, les jeunes qui sont le plus en défiance sur le régime des Mollahs. Sous-entendu, les plus anciens sont moins en opposition.
Et les jeunes, c'est vrai. Beaucoup, hein.
Mais c'est souvent le cas des révolutions.
Anciens, les plus anciens savent ce qu'ils risquent. Oui. Les plus jeunes, oui, et les femmes ont du courage.
Bon, un passage ONU, si vous voulez bien. Écoutons l'ambassadeur d'Israël à l'ONU.
Prenez un moment pour réfléchir à ce qui se serait passé si l'ayatollah Khamenei avait pu lancer une bombe nucléaire la nuit dernière. Est-ce le monde dans lequel nous voulons vivre ? Je dis donc imposer toutes les sanctions possibles à l'Iran avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons besoin d'un monde dirigé par des Churchill, pas par des Chamberlain.
Bon, c'est quand même la question essentielle.
La vraie question, c'est ça. Il y a deux
options. L'attaque nucléaire.
Il y a deux options. Il y a les gens qui vous disent qu'on a le nucléaire, on devient sage. Regardez les Staline, regardez les Chinois, regardez tous les Pakistanais. Quand vous avez l'arme nucléaire, vous devenez un pays à la fois inattaquable, dont la souveraineté est respectée partout, et en même temps, vous devenez raisonnable. D'accord ? Vous n'êtes plus fou. Et puis il y a les autres qui vous disent... Les Iraniens n'ont qu'une obsession, ils finissent par croire ce qu'ils racontent, mort à Israël, l'entité sioniste, alpha et oméga de leur politique, et ils oseront, ils iront jusqu'au bout, comme ils ont osé avant-hier.
Deuxième passage à l'ONU, Nathalie Estival-Broderst, que vous connaissez sans doute, qui est l'ambassadrice de France à l'ONU.
À l'ONU.
La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent qui a été lancée par l'Iran contre Israël hier et qui menace de déstabiliser la région. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et il prend le risque d'une escalade militaire dont il serait le responsable. Nous appelons l'Iran et ses alliés à cesser enfin et sans plus de délai leurs activités déstabilisatrices dans toute la région. La France exprime sa solidarité avec le peuple israélien et rappelle son attachement à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale. Elle se félicite que, fort heureusement, Israël ait été en mesure de repousser avec succès cette attaque, permettant d'éviter le pire et d'épargner de nombreux civils.
Représentante adjointe hein, de la France à l'ONU, pas grand-chose à commenter. On est dans des propos...
De circonstances.
Voilà, de circonstances. Et je voulais vous faire écouter Antonio Guterres.
We have a shared responsibility to work. Nous avons la responsabilité commune d'œuvrer pour la paix. La paix et la sécurité régionale, voire mondiale, sont menacées d'heure en heure. Ni la région, ni le monde ne peuvent se permettre plus de guerre.
Can afford more war. Thank.
Là aussi, pas grand-chose à dire, sans doute.
Grande retenue, hein, des uns des autres, quand même. Hein. La Chine, silence. La Russie, silence. C'est... Non, mais bon...
Non, mais il faut décoder.
Non, mais ils sont dans la retenue, vraiment.
Oui, mais la retenue...
On regarde, on ne prend pas ça vraiment au tragique. Il s'est passé quelque chose. C'est effectivement... Il y a une étape, il y a quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait, les Iraniens. Mais pour autant, ce n'est pas la gravité tragique. Désolé, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale qui vient de commencer.
Dernière.
Même si ça fait tourner la machine à
dernière chose, pas tout à fait d'ailleurs sur ce sujet, mais je voulais qu'on écoute M. Séjourné, la position de la France. Il ne faut pas inverser les responsabilités.
Il ne faut pas inverser les responsabilités aujourd'hui. C'est les Iraniens qui ont attaqué Israël, notamment. Et puis, il faut voir aussi les choses. Je vous le disais, ça fait maintenant depuis 1979 que l'Iran a mis au cœur de sa diplomatie la haine contre Israël. Et donc, ce n'est pas nouveau. On a l'Iran qui est hostile dans cette région. Et nous nous préparons également... dans toutes ces circonstances, à pouvoir œuvrer, et notamment à la sécurité de la région. Nous avons pris nos responsabilités parce que nous sommes acteurs de la sécurité régionale. Nous avons des bases, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis notamment, et l'attaque iranienne ne mettait pas que en cause Israël, mais également porter atteinte à la sécurité de nos forces, et violer l'espace aérien également de nos partenaires arabes, qui sont les Jordaniens et l'ensemble des pays arabes avec qui nous avons des accords. Et donc dans ce cadre-là, oui, nous avons agi en conséquence et nous avons participé à des actions d'interception notamment.
Moi, ce que je trouve formidable, c'est que les Saoudiens ont laissé leur espace aérien ouvert. Ouais. Les Jordaniens sont même allés jusqu'à abattre les missiles iraniens. C'est-à-dire que vous avez deux pays arabes là, qui se sont mis aux côtés d'Israël. Et ça devrait faire réfléchir les gens en France qui brandissent le drapeau palestinien et imaginent que tout le monde arabe est derrière le Hamas. Eh bien, c'est pas le cas. C'est pas vrai. C'est même le contraire. C'est même le contraire.
Tout à l'heure, ça rejoint effectivement que la cause palestinienne est bien loin d'objectifs qui sont poursuivis et qui ne sont pas ceux-là.
Oui, bien sûr, que c'est une sorte de Palestine dans les têtes.
Bien sûr.
Et qui n'a absolument rien à voir avec
ça. C'est même le contraire.
La Maison-Blanche a tweeté, le président Biden s'est entretenu aujourd'hui par vidéo sécurisée avec les dirigeants du G7. Les dirigeants ont condamné l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël et ont réaffirmé l'engagement du G7 en faveur de la sécurité d'Israël. Alors c'est le paradoxe, c'est que tout le monde est venu près d'Israël, est redevenu allié d'Israël. Et puis Gérald Darmanin, à l'approche de la fête juive de Pessah et compte tenu du contexte international, j'ai donné instruction au préfet de renforcer significativement la sécurité des lieux fréquentés par nos compatriotes juifs, en particulier les synagogues et les écoles confessionnelles. Voilà, je pense, ce que nous pouvions dire sur ce sujet, sauf si vous avez...
Mais juste, parce que Vincent l'a dit tout à l'heure, mais il faudrait insister, Stéphane Séjourné parlait de sanctions contre Israël il y a une semaine, provoquant la colère sur notre antenne de l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Donc on voit bien que le discours a quand même changé depuis l'attaque des Iraniens.
Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est aussi les conséquences pour la France. Et quand je parle souvent de l'espace médiatique, je voulais vous faire écouter ce qu'a dit un journaliste du Monde, parce que c'est intéressant de voir comment chacun se détermine. C'est-à-dire que Libération, Le Monde, sur ces sujets-là, comment c'est traité. C'est M. Ayad que vous connaissez, dont vous suivez sûrement la signature dans le journal Le Monde, et on l'aura dans deux minutes. Un mot peut-être de conclusion avant... on va écouter Biden, là, puisque nous avons quelques secondes avant que je vous fasse écouter ce son, qui me paraît là aussi intéressant, parce que qui traduit la pensée
des intellectuels.
En campagne, en plus, Joe Biden.
Oui, alors c'est pas Joe Biden, mais je voulais vous faire écouter le son du journaliste du Monde qui traduit une certaine pensée présente en France. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce sujet. Mais écoutons Biden avant cela.
Hey, you guys are the best in the whole damn world, man. The whole world. No, that's not hyperbole, man. Both these squadrons. You're incredible. Absolutely incredible. You made an enormous difference, potentially saving a lot of lives. And thanks to extraordinary skill, the United States helped Israel take down nearly all those incoming missiles. You're remarkable. You're just incredible. I apologize for my enthusiasm. I'm supposed to be much more reserved.
Bon, vous aurez compris en anglais ce que dit le président Biden et c'était sous-titré en anglais. Que voulez-vous dire ?
Non, moi j'ai été très impressionné par la démonstration de puissance des États-Unis dans toute cette affaire, à la fois par la qualité du renseignement, c'est pas la première fois, qui en France suscite toujours de l'incrédulité ou du scepticisme. Enfin, ils ont annoncé ce qui allait se passer. On pourrait peut-être les prendre un peu plus au sérieux la prochaine fois. Et puis tout de même, dans le système de défense israélien, le rôle des États-Unis est tout à fait central. Et donc je trouve qu'il y a une démonstration de force des États-Unis dans ce qui s'est passé que je trouve tout à fait remarquable. Mais il y a toujours une superpuissance, et c'est les États-Unis.
Vous avez raison, mais il y a quand même une chose...
Général Clermont est d'accord avec ça ou pas ?
Absolument. C'est pas si simple que du ball trap, hein, contrairement à ce que dit Vincent. C'est plus compliqué que du ball trap. Ça nécessite une coordination, de la détection. C'est la première fois, pour faire très simple, je pense que les gens le tentent bien, c'est la première fois qu'on va avoir une bataille entre des avions pilotés et des avions non pilotés. Et effectivement, il y a eu plusieurs dizaines de drones et de missiles de croisière qui ont été abattus grâce à la coordination et sous le leadership des Américains, avec la participation des pays, vous les avez cités, dont vraisemblablement la France.
C'est toujours intéressant de voir comment l'espace médiatique, et notamment un journal comme Le Monde, la position du Monde, c'est pas rien, la position de l'AFP, c'est pas rien. Souvent, nous l'avons souligné dans ces conflits. Donc écoutons ce que dit ce journaliste spécialiste du Monde.
Il aurait perdu beaucoup, beaucoup de sa crédibilité, notamment auprès de ses alliés arabes, du fameux axe de la résistance. C'est-à-dire que il serait passé pour lâche, alors qu'il passe son temps à appeler à la destruction du petit Satan, Israël, après un tel coup et une telle humiliation. Qu'était la destruction de son consulat à Damas. Il ne pouvait pas ne rien faire. Après, il y avait plusieurs options. Il pouvait répondre par l'action terroriste contre une enceinte diplomatique israélienne dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Il pouvait répondre par l'intermédiaire de ses alliés.
Et du Hezbollah.
Comme il avait l'habitude de le faire. Le Hezbollah, les milices houthis au Yémen ou les milices irakiennes. Et puis, il y avait enfin l'option de répondre directement. S'il l'a fait, c'est que il a eu peur de passer pour faible, mais il se sentait aussi suffisamment fort pour le faire. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert aussi, enfin ce que le monde a découvert, même si les Israéliens, les dirigeants israéliens, c'est pas une nouveauté pour eux, c'est que l'arsenal iranien a changé. Les Iraniens ont développé une industrie qui fabrique des missiles balistiques de croisière et qui fabrique des drones par milliers. Puisque d'ailleurs ils sont vendus à la Russie qui les utilise massivement en Ukraine. Ouais. Donc ils peuvent se permettre de balancer 300 drones.
Donc, analyse purement factuelle de Christophe Ayad qui est journaliste au Monde sur lequel il n'y a pas grand chose à ajouter. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Il nous reste 3 minutes puisque nous sommes dans l'actualité étrangère, un mot quand même sur Donald Trump bien évidemment. Avec vous, puisque le procès pénal de Trump s'ouvre en pleine campagne. L'ex-président des États-Unis va faire face aujourd'hui à la justice pénale avec l'ouverture d'un procès à New York, rendant plus imprévisible son duel contre Joe Biden lors de l'élection prochaine du mois de novembre. Est-ce que vous avez là-dessus quelque chose à nous dire ?
L'affaire Daniels.
Ouais.
Bon, alors, ce qu'on lui reproche, quand même, hein, parce qu'il y a plein de choses d'inculpation, mais ce qu'on lui reproche, c'est que son avocat a payé le silence d'une ancienne actrice porno qui voulait raconter dans un livre un scandale une relation qu'elle a eue avec Trump 10 ans avant l'élection de 2016. La fille voulait le publier et l'avocat a acheté son silence contre 120 000 dollars, si je me souviens bien. Et après, La Trump Organization, qui finançait la campagne de Trump, a remboursé l'avocat et a maquillé ça ou l'a dissimulé sous le titre « frais de justice » ou « frais légaux, judiciaires ». Et voilà, ben ça c'est contraire au règlement électoral, ça devait être dans les comptes de l'élection. Et donc, il est traîné pour cette histoire un peu infamante, ridicule, moche. Et ce que dit le procureur, c'est que ça a pesé à tel point sur l'élection, cette affaire, en voulant étouffer ce scandale, ça a eu de telles conséquences que les quelques dizaines de milliers de voix qui ont fait élire Trump se seraient tournées vers Hillary Clinton. Et donc que ça a eu un impact considérable, qu'il doit donc rendre compte pour complot contre l'État. C'est totalement tiré par les cheveux. Ça conforte les Américains qui pensent que Trump est victime d'une sorte de harcèlement judiciaire. Mais sur le plan, au pays des lawyers, au pays où on sait faire de la casuistique juridique, ben ça marche.
Mais ça peut marcher.
C'est quand même problématique, c'est que on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Moi, c'est quelque chose, je ne défends pas du tout Donald Trump, hein, mais mettre sur le même plan la tentative de coup d'État du 6 janvier, ouais. Une histoire sexuelle avec une actrice porno, ou le fait qu'il ait pris... C'était très grave.
La tentative de coup d'État, elle mérite quand même peut-être un peu de nuance.
L'insurrection, si vous voulez.
La tentative de coup d'État, c'est maintenant dans l'opinion. Si vous pensez sérieusement qu'il y a eu tentative de coup d'État de Donald Trump le 6 janvier... Pour le moins, ça mérite un peu de mise en perspective. Je le dis sous le couvert de notre ami Vincent Hervouette.
En tout cas, mettre un peu de nuance,
peut-être.
On peut appeler ça comme vous voulez, mais mettre
c'est important,
le Capitole, le 6 janvier, l'affaire sexuelle de Stormy Daniels, ou le fait qu'il ait pris 3-4 cartons, qu'il les ait ramenés dans sa villa, il y a une forme de relativisme ici.
Oui.
Où on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une perte des valeurs de tous les côtés en Amérique. Ça, c'est inquiétant.
Le problème, c'est surtout le procureur, le fait qu'il soit élu, le fait qu'ils aient besoin. Voilà. Cela dit, on a un peu ça chez nous sans l'élection. C'est vrai. Parfois. des juges qui veulent se payer des politiques.
Ah, oui. Bah écoutez, voilà. Oui.
Ou avec l'élection, c'est bon aussi. Hein.
Non, merci, mon général.
Ah oui.
Merci beaucoup. Nous sommes inquiets, vous aussi.
Écoutez, raisonnablement inquiet, parce que je pense que c'est de l'intérêt de personne que ce fameux embrasement arrive. Donc les quelques jours qui viennent sont sans doute des jours. Inquiétant, parce que ça va dépendre de la réponse d'Israël.
Merci. On va parler de la face cachée de l'immigration avec Fernand Gontier. C'est un entretien exclusif qu'il a de Miss Confidentielle, dit-il, journaliste police-justice du directeur central de la police aux frontières de 2017 à 2022. C'est assez intéressant. La face cachée de l'immigration. Environ 500 000 entrées au séjour irrégulier chaque année en Europe, quand même. 500 000 entrées. On parlera évidemment des propos du président de la République sur Aya Nakamura, qui effectivement subit des attaques qui ne sont pas...
Vous avez défendu brillamment hier dans le JDD.
Mais enfin, on a quand même le droit de ne pas aimer hier.
Oui, on a le droit de ne pas aimer, mais le sous-texte là-dedans, tout le monde l'a compris. Et je pense que
le sous-texte d'Éric Nolot, par exemple, c'est pas vrai.
Oui.
Je veux dire, il n'aime pas la bêtise.
Si elle s'appelait Sophie de Brecheville, elle n'aurait pas eu ces attaques-là, c'est ma conviction. Ce n'est que ma conviction.
Peut-être que elle parlait un français qui nous plaît, peut-être.
Mais un français, ça, c'est. Pardonnez-moi.
Je vous pardonne, mais je ne suis pas d'accord.
Comment dire, tu joues avec les mots et tu crées une forme de langue quand tu es un artiste et un chanteur et d'arriver en disant elle parle pas français.
Mais j'ai le droit de ne pas aimer cette langue, je la trouve pas subtile, je la trouve pas nuancée.
Et vous l'avez lu?
J'ai lu après. Vous savez pourquoi je l'ai lu?
Ouais, c'est ça, c'est que personne ne l'a lu en fait.
Pascal, mais on marque une pause. Ouais. Je suis allé regarder les paroles parce que.
C'est très. En fait, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo, plutôt bien écrit, plutôt marrant, plutôt. Bon, la pause parce que je me fais engueuler, si j'ose dire, par Marine Lançon. À tout de suite, merci. La face cachée de l'immigration, Fernand Gontier, aux éditions Baudelaire. C'est un entretien exclusif de Miss Confidentielle, journaliste police-justice du directeur central de la police aux frontières de 2017 à 2022 au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ce livre ?
Eh bien, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Pourquoi ce livre ? Parce que d'abord, j'ai pris ma retraite, donc je peux dire un peu plus librement les choses que je n'avais l'habitude de le faire jusqu'à présent. Un directeur central de la police aux frontières ne s'exprime jamais, c'est toujours le ministre qui parle, surtout sur des sujets aussi glissants que cela. On connaît davantage le nom des directeurs des services de renseignement, mais moins celui du directeur de la PAF. Donc je peux m'exprimer plus librement, à la fois sur mon témoignage, au bout de 37 années à la police aux frontières et 5 ans à la tête de ce prestigieux service, pour dire un certain nombre de choses, de vérités, d'évolution aussi dans le temps, ce que Schengen a fait, ce que Schengen n'a pas fait ou n'a pas encore fait, les limites de notre action et les points forts également. Donc faire beaucoup de propositions. Alors c'est un livre qui est un entretien avec une journaliste, donc c'est assez facile à lire. C'est pour expliquer à tous les Français, de manière dépassionnée, apolitique, ce qu'est l'immigration en France, en particulier l'immigration irrégulière.
Est-ce qu'on sait combien de personnes, par exemple, en 2023, sont rentrées sur le territoire de France de manière irrégulière ?
On a quelques indications qui sont liées, en fait, au contrôle aux frontières intérieures, vous savez, avec les pays.
Je suis d'accord, mais est-ce qu'on a un chiffre ?
De l'ordre de 100 000, à peu près, ont été détectés. Donc attention, il faut faire très attention à ce qu'on révèle et ce qui n'est pas révélé.
Et ces 100 000, là, au moment où on parle, elles sont toujours sur le territoire de France.
Ou ont transité par la France pour aller vers le nord de l'Europe, vers la Grande-Bretagne.
Mais a priori, alors, combien de clandestins sont sur le sol de France à l'heure à laquelle je parle ?
Alors les estimations, parce que là, évidemment, c'est impossible, puisque c'est l'immigration clandestine.
Mais 37 ans, vous avez travaillé, donc vous avez une petite estimation. Parce qu'autrement, ce qui est intéressant, c'est si vous nous dites des choses.
Oui, alors je vais vous dire qu'ils sont entre 400 000 et 800 000. Voilà.
Clandestins.
Clandestins. Vous avez l'estimation qui est liée.
Clandestins.
L'aide médicale d'État, 400 000 à peu près. Si on rajoute un tiers, on est autour de 600 000.
Et par exemple en Allemagne, en Italie, en Espagne, est-ce que c'est la même chose dans tous les pays européens ou est-ce que nous, on est là-dessus plus performants, si j'ose dire,
que les autres ? On est un pays cible.
On est un pays cible.
Oui, parce qu'on est un pays cible à la fois de par la proximité de l'Afrique, proximité géographique, proximité aussi des communautés qui sont installées.
Ah, l'Italie et l'Espagne sont plus proches que nous quand même.
Non, mais ils ne font que transiter la plupart du temps parce que, si vous voulez...
Parce que nous, on accueille mieux.
On accueille mieux, on héberge mieux, on héberge plus.
Donc ce n'est pas géographique.
Ce n'est pas que géographique, mais il y a des liens historiques avec l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb en particulier.
Isabelle Piboulot est avec nous, elle nous rappelle les titres et ça va être intéressant d'essayer d'avoir vraiment une précision sur la situation, forcément.
Bien sûr.
Un diagnostic. Isabelle.
L'Iran a provoqué une rupture profonde avec son attaque inédite contre Israël samedi soir. La France va tout faire pour éviter l'embrasement régional, a déclaré Emmanuel Macron chez nos confrères de RMC. Les Américains ont un rôle très important à jouer pour contenir l'Iran, a-t-il reconnu. Le président de la République a par ailleurs exprimé sa confiance dans les syndicats français et souligné leur esprit de responsabilité alors que des grèves menacent de perturber les Jeux Olympiques. La CGT et Force ouvrière ont déposé des préavis allant jusqu'au 15 septembre, soit une période couvrant les JO et les Jeux paralympiques. Et puis ces images qui ont bouleversé le monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes, c'était il y a 5 ans. Depuis, les principaux défis de restauration ont été relevés, à l'image de la flèche réapparue dans le ciel de la capitale. La réouverture de Notre-Dame est prévue le 8 décembre.
Merci beaucoup Isabelle Piboulot. La face cachée de l'immigration, on va en parler dans quelques secondes. Mais écoutons d'abord le président Macron sur Aya Nakamura, qui, si j'ai bien compris, sera présente dans la cérémonie d'ouverture. Mais elle ne sera pas seule. Donc si elle était seule, on pourrait effectivement entamer une discussion en disant « Est-elle l'artiste qui représente le mieux la France ?» Mais à partir du moment où il y aura d'autres artistes, d'autres chanteurs, elle est une voix de la France et c'est la voix la plus streamée, paraît-il.
En bon français.
Streamée, la plus écoutée au monde.
Le monde.
Donc, quand tu es un artiste, le seul talent, c'est de plaire.
Non.
Ça, c'est
non.
Discutable.
Non. Ouais. Franchement, ça, c'est la politique de l'audimat qui ne saurait être la vôtre.
Non, c'est ce que disait Molière. Écoutons. C'est exactement ce que disait Molière. Pardon. Et si le grand talent, au bout du compte, ce n'est pas de plaire. Je ne fais que citer mes sources. Écoutons, non pas Aya Nakamura, mais le président de la République.
Elle fera partie des artistes. Là aussi, j'ai parfois entendu beaucoup
de choses. Ça vous a choqué ?
Les réactions m'ont choqué. Ouais. Mais parce que je pense aussi, il y a eu des réactions vraiment racistes. Ça m'a choqué. Il y a eu des réactions qui ont été des incompréhensions. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il y avait d'abord 4 cérémonies, mais qu'au-delà de cela, la cérémonie d'ouverture, on va avoir des centaines d'artistes mobilisés.
Vous voyez ?
Non, mais là où vous avez raison, c'est que dans les attaques, il y avait pas seulement. Il y a des gens, encore une fois, je cite Eric Nolot, je ne crois pas qu'il y ait l'once de racisme dans sa réaction. Lui, il parle de l'abaissement de la langue française, qu'il est hors de raison, donc ça c'est vrai. Mais il y a aussi dans le choix de départ, le fait qu'on a monté un peu en sauce, il y avait aussi une intention. Maintenant, là où je vous rejoins, d'abord, je m'en fiche, je veux dire, elle va certainement chanter en français et du. Elle va chanter du Piaf, ça il faut le rappeler. J'ai envie que la France soit représenté par des classiques de la culture française. Ça vous choque ?
Bah Piaf, c'est du classique de la culture française.
Mais Piaf... pas les chansons d'Aya Nakamura, voilà.
Mais il n'a jamais été question de chanter Dja Dja le jour de la cérémonie d'ouverture.
J'attendais que vous la chantiez, que vous avez...
Qui n'est pas ça.
Ah, et ça marche.
Quoi ? Que dites-vous ?
Non, mais c'est une petite polémique. Moi, personnellement, je m'en fiche éperdument de qui chantera à cette cérémonie à laquelle je ne suivrai sans doute pas, d'ailleurs, etc. Je m'en fiche. D'ailleurs, le fait de provoquer et puis ensuite après de culpabiliser disant « Vous êtes raciste, c'est mal, vous avez une opinion contraire, mais comment osez-vous ? » C'est tellement cousu de fil blanc, c'est tellement évident, c'est tellement sans intérêt.
Mais non.
Pardon.
D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, je trouve que contrairement à moi, je la regarderai la cérémonie d'ouverture.
Ah, ouais. Pourquoi
parce que c'est quand même curieux de ne pas la regarder, si vous me permettez. Ouais. C'est très étrange de dire je ne veux pas la voir. Mais pourquoi ? Parce que tu as quand même. Moi, je suis bon public, par exemple. Je suis enthousiaste, au fond.
Je suis un mauvais public.
J'ai envie d'émotion, j'ai envie de regarder ça, par curiosité, même si, franchement, sur les jeux, j'ai été comme tout le monde. Je dis, voilà, ces jeux, à quoi ça sert ? Ça a coûté cher, tout ce que... Mais le jour où ça se passera, je me connais, je regarderai ça, et puis je me dirai, c'est formidable, c'est très bien, regarde, c'est émouvant, il y aura de la curiosité. Bon, parce que ma personnalité est comme ça. Vous vous dites, ah ben non, j'irai à la pêche, à Guérande. Bon, vous avez le droit.
Ce qui est dingue,
je trouve que c'est rigolo.
Ce qui est dingue, c'est que vous trouviez ça étrange. On a quand même le droit de ne pas marquer.
Mais évidemment que vous avez le droit. Mais ça m'ennuie toujours quand un journaliste. En fait, j'ai l'impression que quand tu es journaliste, c'est pas mal quand même. C'est curieux de dire, je ne vais pas regarder ça. Voilà, moi, ça me surprend. Mais attendez, vous faites ce que vous voulez surtout. Je ne suis pas la police de.
Merci beaucoup.
Merci vraiment, c'est votre libéralisme en la matière.
Mais je suis
vraiment,
pas la...
Merci je suis infiniment pas la de m'autoriser à ne pas me planter devant la télé pour regarder la cérémonie. À ne pas vivre claquemuré comme tous les Parisiens dans mon petit domicile en attendant
ne dites pas ça, j'ai pas envie d'être à Paris pendant les Jeux. Bon. Je fais tout pour ne pas y être parce que ça va être un tel bordel, pardonnez-moi,
Que vous osez ne pas être sur place alors que l'événement vient à vous ? Quelle hypocrisie !
Un journaliste
indigne de ce nom !
Provoquer un peu, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté dégoût aristocratique pour le
populaire ? Mais oui, en plus, les chapeaux, allons-y ! Mais oui, quelle honte ! Quelle honte de mépriser un événement populaire comme celui-là !
Mais non, mais vraiment, les drapeaux n'aiment pas poursuivre.
Il se passe quelque chose, il y a un événement.
Et alors, on n'a pas le droit de parler.
Vous n'aimez pas le peuple. Voilà, il a raison. Vous êtes des nantis sur votre avante. Vous n'aimez pas la foule, vous la méprisez. Voilà.
Le peuple, je lui appartiens, c'est déjà bien sûr évident. J'ai pas besoin.
On va vous chanter la Carmagnole, on reviendra vous chercher. Dans votre studio.
Mais quoi, vous manquez de naïveté de temps en temps.
Oh non.
Vous avez perdu votre âme d'enfant.
Oui, ça complètement là-dessus.
Alors que nous,
d'enfants avec les hordes de touristes qui vont arriver sur Paris.
Les hordes qui arrivent, les hôtels sont vides.
Les hôtels sont vides, donc il y aura personne. Non, mais ce qui est les Jeux c'était formidable jadis. Jusqu'en 84 à Los Angeles, après les exceptionnels, Carl Lewis, etc.
En 84,
ça a souvent été, mais ça reste quand même le 100 mètres, c'est extraordinaire, quoi. Les compétitions, la natation, par exemple, vous avez vu ces nageurs, vous enthousiasmez pas la manière dont c'est filmé, dont c'est réalisé, c'est des hommes extraordinaires. Bon, alors bon, voilà, vous, qu'est-ce qui.
Non, je ne m'enthousiasme pas pour ça.
Excusez-moi, j'aime pas les hommes. Eh ben, vous irez.
J'aime pas l'idolâtrie.
des sportifs.
Les dieux du stade. Voilà, on va terminer sur Hitler et Jesse Owens. Donc ça va être terrible.
Vous critiquez les JO depuis un an. Vous n'arrêtez pas de les critiquer.
Non, pas depuis un an.
Vous n'en pouvez plus les JO. Le jour où ils arrivent, vous y intéressez même pas.
Non, mais. Bon, en tout cas, Aya Nakamura, c'est vrai qu'il y avait un sous-texte raciste, que vous le vouliez ou non, pas chez tout le monde, mais il y avait un peu.
La banderole qui avait été déployée par les identitaires.
Et si elle s'était appelée Sophie de Bretteville, elle n'aurait pas eu les mêmes soucis.
Et votre article était très bien. Sans flagornerie.
Oui, non, sans flagornerie.
Vraiment, pas pour ça. Mais
vous allez tout augmenter.
Vous reviendrez.
Michonnet. C'est dans les grandes vacances. Michonnet.
Non, enfin, vous avez écrit un édito de gauche. C'est vraiment.
Mais c'est pas un édito de gauche.
Oh, je me charrie.
Voilà, c'est vraiment. C'était dans le journal. Hier, dans le journal du dimanche.
Maintenant, oui.
Bon. Alors. Il est 10h11. Vous serez dans. On parlera évidemment de l'immigration dans quelques secondes. On avait terminé sur Trump tout à l'heure. On avait terminé. Un petit. Alors, les élections européennes. Tiens, voyons les élections européennes.
Ah, le sondage est très intéressant.
Ah,
Notre-Dame. Ah, le sondage est très intéressant parce que Jordan Bardella progresse encore plus un point et fait le double désormais de Valérie Hayé qui perd 2 points. Elle avait gagné des points quand Emmanuel Macron avait remis la question de l'Ukraine au cœur des débats. Maintenant que ce temps-là est passé, elle perd 2 points. Et qui est derrière à 3 points seulement d'elle ? Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui pourrait donc doubler Valérie Hayé. C'est l'enjeu. Jordan Bardella lui a dit quand ils ont débattu ensemble sur France Inter, tu termineras deuxième de l'élection et tu vas finir devant Valérie Hayé.
On voit qui a dit ça ?
Jordan Bardella à Raphaël Glucksmann. Il lui a dit dans les couloirs de France Inter quand ils ont débattu ensemble la semaine dernière.
Oui, lui a...
C'est son pronostic.
Oui.
Voilà.
Mais... Ça, c'est comme François Mitterrand disait à François Léotard, vous me succéderez à cette place-là. Ça, c'est le baiser de la mort, parfois.
Oh, on verra, non.
À tous ses interlocuteurs, il disait ça à François Mitterrand.
Après, l'entourage fait en sorte que ça se sache, que ça sorte dans le Figaro, que ça soit confirmé.
Vous serez bientôt à ma place.
Pour diviser la droite, oui, il faisait ça.
Vous serez bientôt à ma place.
Ouais.
Et donc, surtout, c'est le retour d'une certaine social-démocratie. Et finalement, ça plaît pas tant à Olivier Faure. Parce que Olivier Faure qui est pro-NUPES,
oui.
Il faut pas que Raphaël Glucksmann fasse un trop bon score. Parce que si Raphaël Glucksmann termine deuxième de l'élection, pour la ligne pro-NUPES, c'est pas bon.
Il est encore.
Mais Olivier Faure, Glucksmann pourrait être la tête de liste du PS. C'est ce que vous nous dites prochaine présidentielle.
Ah non, je dis que c'est le retour des sociodémocrates. On voit bien comment François Hollande veut se greffer au succès de Raphaël Glucksmann. Oui. Comment cette gauche qui était complètement morte essaye de se réanimer avec le succès de Raphaël Glucksmann, pour le moment qui n'est que sondagier.
Bon.
Et donc c'est pas bon pour la ligne pro-NUPES si le succès de Glucksmann est trop grand.
Mais par exemple, vous qui êtes un homme de gauche, vous avez voté Glucksmann, Philippe Guibert ?
Encore ? Mais moi, je ne sais pas encore.
Bah, mais vous n'avez pas beaucoup de choix pour vous, parce que vous n'avez pas voté France Insoumise.
Ah non, ça c'est une certitude. Bon. Ça, je peux le dire sans aucun.
Vous êtes tenté par Reconquête, je sais, mais vous êtes réticent.
Je me retiens. mais moi, j'ai juste une question un peu technique, cher Gauthier.
J'espère y
répondre. Combien on a de Français dans les sondages
qui sont sûrs de voter ?
Qui sont sûrs de voter. Parce que c'est quand même ça le point.
Exactement, vous avez 100% raison. Et il y a un très très gros taux. Plus de 80% de ceux qui se déclarent voter pour Bardella qui sont sûrs de le faire. Et c'est beaucoup, beaucoup plus faible pour Valérie Hayé. Je crois que c'est un peu plus de 50%. Pour Jordan Bardella, c'est plus de 80%.
Bon, là, le président va entrer en campagne parce que Valérie Hayé, il faut sauver le soldat Hayé quand même.
Alors, sans doute, on va voir parce qu'on attendait que Gabriel Attal entre nettement plus en campagne. Je vous rappelle quand il nommait Matignon, c'est l'arme anti-Bardella. Bon, bah, pour le moment, c'est un pistolet à eau.
Oui, mais,
et il ne veut
mais
pas trop se mouiller.
On est le 15 avril.
C'est dans moins de 2 mois.
L'élection, elle se joue quoi, Philippe Guibert ? Sérieusement, vous qui êtes un spécialiste de ça.
Non, mais elle se joue dans les 15 derniers jours.
Vous l'avez montré au SIG, notamment quand vous étiez au gouvernement, au service d'information.
L'hégémonie de Bardella est déjà jouée.
En donnant les informations. Absolument. Ça se joue les 15 derniers jours ?
Oui, ça se joue. Les européennes se jouent toujours dans les 3 semaines.
Enfin, là.
Mais ce n'est pas structurant, les européennes, m'a-t-on dit.
Bah,
c'est jamais structurant.
Le pénisme est né aux européennes, l'écologisme est né aux européennes. Donc dire que c'est pas structurant et que ça n'a aucune influence sur le champ politique, c'est pas tout à fait exact. Il y a eu des.
D'accord.
Les grands mouvements politiques sont souvent.
Oui, mais c'est pas structurant, Manon.
Non, mais. Manon Aubry avait déjà fait un score décevant aux dernières européennes. Pour la présidentielle, c'est vrai.
Je ne peux pas citer mes informations comme ça. Un journaliste ne cite pas ses sources. Mais ce n'est pas structurant.
C'est le discours des macronistes de dire que ce n'est pas structurant.
Pas
ce truc.
Mais c'est vrai.
Bon, un mot.
S'il vous plaît.
C'est vrai.
Juste. Un mot.
Est-ce qu'il va y avoir.
Mais vous savez, par exemple, pardonnez-moi, moi, ça m'a toujours étonné, les gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Vous, est-ce que tout le monde sait ici pour qui il va voter? Sérieusement. Mais vous ne dites pas pour qui. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter?
Mais moi, je n'ai pas voté pour l'instant.
Non, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Oui ou non?
Vous n'avez jamais voté?
Non, j'ai moins de 18 ans.
Vous avez moins de 18 ans?
Je sais pas si je. Non, j'ai jamais voté.
C'est pas vrai.
Alors, vous me décevez. Bon, monsieur Gontier, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Absolument. Absolument. Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter?
J'hésite entre deux listes.
D'accord. Est-ce que vous savez pour qui
vous allez voter? J'hésite entre deux listes.
Est-ce que vous savez pour qui. Est-ce que. Et vous, vous n'avez pas voté non plus, vous?
Non.
Les jeux, tout ça, c'est.
Non. Si, je vais voter. Je ne vous le dirai pas.
Ben non, mais je
vais voter.
Vous le sauriez donner.
Les élections, c'est d'un vulgaire.
J'aime pas trop voter pour des gens. S'il y avait un référendum, on voterait. Si on votait pour les gens.
Bon, je salue. Je salue l'ami. Ah non, il y a monsieur Nolo. Je crois que c'était Eric Nolo, mais c'est un autre Nolo. C'est René Nolo. Il me dit tu me déçois beaucoup, on ne regarde plus ces news. Sans doute pour.
Voilà.
Je vous signale que Jesse Normal, effectivement, a chanté pour le bicentenaire de la Révolution de la Révolution française, et personne à l'époque n'avait parlé de.
Ce qui va contre votre thèse, alors.
Mais parce qu'à l'époque, ça existait moins qu'aujourd'hui. Pardonnez-moi, c'est je l'ai vu, je l'ai perçu comme ça. Peut-être, est-ce que je me trompe? Bon, un mot sur la police municipale. Faut-il l'armer ou pas? Et je voulais qu'on voie le sujet de Michaël Chaillou, parce qu'à Nantes, par exemple, la maire ne veut pas que les policiers soient armés. Enfin, on est quand même. Je vous assure, c'est invraisemblable en fait. En fait, c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a 98% des policiers qui souhaitent être armés à Nantes. 98%. Et vous, la maire qui dit ben non. Pourquoi? Pour des raisons idéologiques. Voyez le sujet de Michaël Chaillou.
À Nantes, les 130 policiers municipaux sont équipés d'un pistolet à impulsion électrique, modèle X2. Même si la municipalité socialiste a beaucoup évolué et investi sur la sécurité, équiper la police municipale d'une arme létale reste un tabou.
C'est une décision personnelle et politique, c'est ce que l'élu nous a rétorqué l'année dernière lorsqu'on lui a clairement posé la question du pourquoi on ne nous équipe pas d'armes létales. Tout ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui nous dépendons de la police nationale pour notre sécurité. Je voudrais simplement que mes collègues et moi-même puissions nous défendre et protéger les Nantais seuls.
Les fonctionnaires de la police nationale soutiennent la revendication des municipaux. Au syndicat Unité, on estime que la majorité municipale nantaise doit sortir d'une position dogmatique sur la question, car la rue a évolué.
Pour les délinquants moyens, il n'y a pas de différence entre un policier municipal et un policier national. Quand il est dans la rue, c'est un uniforme. On a pu le voir dans des occasions, à Nice notamment, où c'est la police municipale qui était intervenue les premiers. Et s'ils n'avaient pas été armés, ils n'auraient pas pu neutraliser le terroriste.
Dans un sondage réalisé en interne il y a quelques jours, les policiers municipaux nantais se sont prononcés à 98% pour être équipés d'une arme létale.
On peut considérer que c'est irresponsable la position de Mme Johanna Roland, mais je sais que vous l'avez rencontrée, parce qu'elle sait que vous venez dans cette émission, et vous lui avez même conseillé de venir sur ce plateau.
Ah, je lui ai fortement conseillé de venir pour s'expliquer et pour jouer le jeu de l'interview, parce que je suis convaincu que vous le joueriez complètement avec elle.
Exactement.
Et que c'est le meilleur moyen, après tout, de débattre, c'est encore d'être présent sur un plateau. Je ne sais pas si elle va donner suite à cette affaire, mais je pense qu'à Nantes, il y a un point de blocage au sein de la majorité municipale avec les écologistes. Je pense que le blocage de la mairie, de la maire, est lié au fait que les écologistes, ils ne veulent pas entendre
parler. Et c'est tout le problème de la gauche, même si elle a semblé évoluer un peu. Je rappelle qu'à Nantes, il n'y avait pas, il y a encore 20 ans, une seule caméra de surveillance. C'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault...
Dans une ville qui était à l'époque... À l'époque, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, on est bien d'accord. À l'époque, il était relativement tranquille.
Enfin, il y a discussion. Mais de toute façon, la prévention, ça existe. Ce n'est pas parce que la ville était tranquille, il ne fallait pas mettre de vidéosurveillance. Il fallait juste voir ce qui se faisait ailleurs et voir le pays. Mais la gauche a un problème avec la sécurité, depuis toujours, et M. Gontier pourrait peut-être en parler. C'est vrai, la gauche a un problème avec la sécurité. Moins aujourd'hui.
Moi, quand j'ai travaillé avec plusieurs élus, grands élus locaux socialistes, ils n'avaient aucun problème avec la sécurité. Il y a eu une régression depuis une quinzaine d'années.
Vous vous rappelez pas de ce qu'on a entendu?
Non, là, je ne partage pas votre avis. Vous pouvez pas dire que la gauche n'a pas de problème. La politique Badinter, c'est l'exact contraire de ce que faisait Perfit. Pardonnez-moi. Donc, la politique, tout le monde a salué Robert Badinter pour la peine de mort, et tant mieux. Mais la politique pénale de monsieur Badinter, elle est incroyablement laxiste par rapport à celle d'Alain Perfit. On peut le dire comme ça.
C'est un contexte qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui.
Mais le sentiment d'insécurité, l'idée est à gauche.
Je vous redis,
c'est la gauche
monsieur
qui
Gontier,
vous a baratiné.
Monsieur Gontier,
socialiste il y a 20 ans.
Monsieur Gontier, alors vous avez travaillé, on rappelle ce que le titre, vous étiez directeur central de la police aux frontières de 2017 à 2022.
Tout à fait.
Donc c'était la présidence Macron.
Oui, bon. C'est lui qui m'a nommé.
Donc il faut être plutôt macroniste quand on est un poste comme ça. Il faut être plutôt en phase avec le président de la République, j'imagine.
Oui et non. Oui et non, parce que je crois que...
Plutôt oui que non, quand même. Parce que si vous êtes...
On est loyal.
Et c'est logique, quand même. Moi, je trouve même... Je suis étonné de votre réponse, pour tout vous dire. Parce que l'administration, elle est là pour exécuter ce que dit le politique. Donc vous êtes là, donc on ne vote pas pour vous. On vote pour Emmanuel Macron et on vote pour qu'il mette en place la politique pour laquelle il a été élu. Donc l'administration, moi, je lui demande d'exécuter.
Dites oui. Oui, la police aux frontières a fait son travail... a bien fait son travail, mais elle est là aussi pour faire des propositions. Et c'est aussi le sens de toutes ces années pendant lesquelles j'ai essayé de faire progresser aussi le contrôle aux frontières, comme la lutte contre...
Est-ce que vous diriez que c'est une passoire, la France? Et volontairement, j'emploie ce terme.
Alors, vous savez, j'ai un de mes prédécesseurs qui disait qu'une passoire, la fonction d'une passoire, c'est de filtrer. Donc une passoire, oui, ça filtre, forcément. Alors le tout, c'est de savoir ce qu'on filtre. Et quel est le niveau de filtration. La frontière n'est pas une passoire. En tout cas, nos frontières extérieures, les frontières avec le reste du monde, sont bien surveillées. En revanche, on a un problème avec nos frontières dites intérieures, c'est-à-dire les frontières avec l'Italie, avec l'Espagne, avec nos frontières communautaires. Quel est le sujet? Nous avons aujourd'hui, vous parliez des élections européennes, et de l'effet structurant des élections européennes, la politique d'immigration, à mon sens, elle se fait à Bruxelles, elle se fait au niveau européen. La France n'arrivera jamais toute seule à résoudre ses problèmes avec ses moyens si nous n'arrivons pas à travailler ensemble. Et je considère que nous ne travaillons pas suffisamment ensemble. Schengen n'a fait qu'une partie du travail. Mmh. Schengen n'a réglé que les entrées.
En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que certains disent dans tous les sujets où il y a trop d'Europe, où il n'y en a pas, où il ne faut plus être en sortie de l'Europe. Et vous êtes sur le thème, il n'y a pas assez d'Europe et c'est pour ça que ça ne marche pas. On est d'accord que vous n'intervenez que sur l'immigration illégale, clandestine. Le reste, ce n'est pas votre sujet.
Le contrôle aux frontières.
Oui, le reste n'est pas votre sujet. Bon, c'est important quand même de le dire. Donc c'est les moyens pour empêcher d'entrer sur le sol de France, les moyens, en l'occurrence, policiers.
Mais je vais vous dire, empêcher les migrants irréguliers de rentrer sur le sol français, c'est déjà les empêcher de rentrer sur le sol européen. Notre frontière, elle n'est pas à Vintimille. Notre frontière, elle est en Grèce, elle est à Algérie.
Nous sommes d'accord. Et on l'a vu parfois avec des gens qui avaient transité par l'Espagne, l'Italie, etc. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire en France pour être moins accueillant?
Être moins accueillant, c'est mieux contrôler le territoire national, mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, un étranger peut travailler, peut se loger, peut mettre ses enfants à l'école, il peut faire plein de choses. Moi, je connais des pays où les migrants ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire en situation irrégulière.
Ils n'y vont pas.
Voilà. Nous, aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué pour l'administration de détecter.
Mais le migrant qui arrive, il ne va pas travailler tout de suite quand même. Le migrant qui arrive, et je pense qu'il est même contraint d'être dans l'illégalité, même de...
Tout à fait.
Il est obligé quasiment de voler pour avoir...
Alors oui, effectivement.
J'imagine, parce qu'il a... quand tu arrives, que tu n'as rien, il n'a aucune aide. Celui qui arrive sur le territoire de manière clandestine, personne ne le connaît, il n'a aucune aide, il n'a aucune association.
Alors... Vous avez des étrangers qui sont accueillis par des communautés qui sont déjà installées. On sait très bien qu'un certain nombre d'étrangers qui bénéficient de visas ne repartent jamais dans leur pays d'origine. Bon, le pays du Maghreb, on ne peut pas les citer. Mais d'autres tentent de séjourner, mais de franchir la frontière pour aller en Grande-Bretagne ou en Europe du Nord. Donc ces gens-là n'ont pas intérêt à rentrer dans la société française. Mais quand on veut rentrer dans la société française, il faut déjà, par exemple, se procurer des faux documents. Les faux documents, c'est un fléau auquel nous sommes confrontés. La fraude documentaire, la fraude à l'identité, la fraude à la minorité, parce qu'il y a quand même 50 000 personnes en France chaque année qui rentrent et qui se disent mineures, alors qu'elles ne le sont vraisemblablement pas dans une grande majorité. Donc,
ce que je voulais dire, c'est que tous ces gens qui sont clandestins rentrent en France en pensant que ceux qui les contrôlent pensent qu'ils ne sont pas clandestins. C'est ça que vous me dites. Oui. Il n'y a pas une sorte d'entrée comme ça à la sauvette sans contrôle.
Non, en fait, non, tous les gens sont contrôlés. Le dispositif.
Mais les papiers sont faux.
Beaucoup de papiers sont faux. Quand on veut évoluer dans la société française, il existe, et je l'explique dans le livre, il existe une multitude de failles, de possibilités de rentrer dans nos dispositifs. Nous avons des vulnérabilités. On peut avoir aussi des vraies cartes d'identité, des vrais passeports, tout en n'étant pas français du tout. Donc il y a une fraude à la nationalité aujourd'hui. On enregistre ça et c'est extrêmement difficile pour les services de l'État, les services de police et de gendarmerie.
Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Moi, je pense que, il faudrait déjà que nous ayons au niveau des étrangers un numéro d'identification unique, éviter les multiples bases de données, les multiples fichiers, qu'on puisse avoir une interopérabilité totale entre les fichiers de l'administration, les fichiers des organismes sociaux, voilà, et que chacun puisse détecter la fraude documentaire. Parce que la fraude documentaire, elle est partout. Elle est partout, tout le monde en est victime, la fraude à l'identité par Internet, etc. Tout le monde peut.
Et pourquoi on ne le fait pas ?
Parce qu'on considère que c'est une atteinte aux libertés. Alors moi, je suis pour la reconnaissance faciale. Je suis pour que chacun puisse protéger son identité en déposant ses empreintes digitales. Aujourd'hui, si vous voulez vous protéger, comment pouvez-vous faire ? On peut vous voler votre identité aujourd'hui. Et je pense que ça se fait tous les jours.
Et la reconnaissance faciale, ça n'existe pas ?
La reconnaissance faciale, elle n'existe que pour l'authentification, c'est-à-dire un contre un. Quand vous passez à un aéroport, on vérifie que vous êtes la bonne personne qui détient le bon passeport. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait passer ce cap, puisqu'on veut éviter des contrôles d'identité parfois abusifs, c'est avoir une reconnaissance faciale par identification, c'est-à-dire détecter les personnes qui sont recherchées. Je rappelle que chaque année, la police aux frontières détecte 100 000 personnes recherchées. Donc, aujourd'hui, l'insécurité doit changer de camp. L'insécurité doit changer de camp. Le migrant doit craindre le pire.
C'est pas le cas.
Mais le migrant a des possibilités. Vous avez des kits de faux documents, de faux permis. Avoir un faux permis, c'est quand même très grave.
Bon, une fois qu'il est sur le sol de France, comment il vit ?
Il vit avec le document de quelqu'un.
Mais en termes financiers ?
Bah, il travaille au noir. Travail clandestin.
Oui, mais pas tout de suite.
Pourquoi pas tout de suite ? Bien sûr. Il se met... Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des...
Et alors, dans quel domaine il travaille ?
Le bâtiment, les services, la restauration, les garages.
Aller sur un chantier ?
Aller voir un chantier. Chantier de bâtiment et travaux publics.
Mais ceux qui l'engagent savent qu'il est clandestin ?
Bien sûr. La plupart du temps, oui.
Et il y a des condamnations lorsqu'on emploie un clandestin, les condamnations
sont
fortes ?
Alors les condamnations ne sont pas très élevées en fait pour les employeurs, parce que d'abord le clandestin lui-même n'est pas un délinquant, hein. Il est considéré comme une victime, c'est l'auteur qui est poursuivi. Mais en général, s'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a que les organismes sociaux et le fisc.
On pourrait imaginer, par exemple, que si il est avéré que l'employeur connaît sa situation, qu'il soit lourdement condamné.
Oui, il risque une peine de prison, il risque, mais elles sont extrêmement rares.
Oui, il réfléchirait peut-être quand même. Ça pourrait être dissuasif.
Nous avons besoin d'une politique pénale ferme dans le domaine de l'immigration.
Mais il faudrait déjà rétablir un délit de séjour irrégulier. Tant que aujourd'hui, de toute façon, vous ne commettez pas un. Alors, dans la loi immigration, je ne suis pas sûre que ce soit complet.
Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel.
Ça a été censuré. Donc, il n'y a toujours pas de délit immigration, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé, vous dites les gens entrant. Mais en fait, c'est un problème, il est au droit d'asile. Le droit d'asile a été complètement dévoyé. Donc,
effectivement. Mais ça, c'est autre chose que monsieur.
Peut-être.
Moi, c'est pour ça que j'ai fait préciser, parce que le droit d'asile, vous n'y touchez pas, si j'ose dire.
Non, mais on est demandeur d'asile. Après, vous n'en bénéficiez pas forcément. Non,
voilà, fraude à l'asile.
Dans l'asile, il y a beaucoup de fraudeurs également qui utilisent des faux documents, avec des faux témoignages, des faux certificats.
Oui, je suis d'accord. Et là, la solution, ce serait, dans ces cas-là ?
Alors, juste sur la dépénalisation. Moi, je considère que c'est une erreur d'avoir dépénalisé le séjour irrégulier en France. Mais en fait, c'est l'Europe qui a dépénalisé. Absolument. Ce n'est pas la France.
Absolument.
C'est une directive de 2008 qui a dépénalisé pour l'ensemble de l'Europe.
En Allemagne, c'est encore un délit.
Absolument pas. C'est juste le maintien. C'est-à-dire que si vous êtes poursuivi avec une obligation de retour, on vous sanctionne. Mais là, ce n'est pas le cas. Depuis 2012, il n'y a plus de séjour irrégulier en France, mais depuis 2008 dans toute l'Europe.
Et c'est ça, le sujet. Vous voyez, Monsieur Gontier, lorsqu'on a affaire, comme vous, à un professionnel qui connaît parfaitement cette situation, et votre parole, elle est peu transmise dans les médias. C'est parfois des journalistes qui parlent de ces sujets-là.
Oui.
Mais lorsqu'on vous écoute, on a vraiment le sentiment qu'on est des amateurs. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose que la France est gouvernée par des amateurs. Parce que vous êtes un professionnel et ce que je ressors de notre conversation, c'est qu'on pourrait faire les choses, on ne les fait pas et après on s'étonne d'avoir sur notre sol des clandestins. Alors que vous, qui êtes un professionnel, pouvez imaginer des solutions. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de domaines, les gens du terrain ont une analyse assez précise, c'est vrai pour les policiers, c'est vrai pour plein de domaines, et que ceux qui dirigent, bah, au fond, ils ne connaissent rien, ou peu.
Il faut de la technique et il faut de la volonté politique. Dans le domaine qui est le mien, ce qui manque le plus, c'est la coordination. La coordination interministérielle. Aujourd'hui, il n'y a que le ministère de l'Intérieur qui est véritablement en charge, j'allais dire, qui prend ça à bras le corps. On a un problème de coordination avec d'autres ministères qui regardent les choses d'un peu plus loin.
Oui, mais vous rendez compte, c'est la marge de l'État français. Et je ne dis pas ça pour Gérald Darmanin, qui est, lui, non, me paraît être un professionnel, absolument, précisément, absolument, de la sécurité.
Très engagé.
Et très engagé. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ce qu'on voit dans l'entreprise privée n'est pas mis en place dans le fonctionnement de l'État. Est-ce que je peux le dire comme ça ?
Oui, je vais vous donner un exemple.
Merci.
Je vais vous donner un exemple, la politique pénale. Quelle est la politique pénale aujourd'hui du ministère de la Justice en matière d'immigration? Si vous la connaissez, vous me la donnez. Moi, je ne la connais pas. Nous avons réclamé des instructions auprès des parquets, auprès des juges qui poursuivent l'immigration irrégulière, certains délits, certaines pratiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de politique pénale en matière d'immigration clandestine, évidemment.
Bon, il est 10h32, malheureusement, et c'est vraiment très intéressant et on pourrait faire une émission en vous écoutant parce que c'est toujours pareil, vous êtes un professionnel, vous êtes resté combien de temps dans la fonction que vous avez occupée?
5 ans.
5 ans et vous êtes dans ce domaine de
37 ans.
Vous vous rendez compte? Donc 37 ans, vous en savez. Et alors ce qui est terrible, c'est que celui qui va piloter ça, il a fait l'ENA, il a rempli 2 QCM et il va décider pour... Non mais...
2 QCM, vous
voyez,
exagérez.
Non, mais
vous...
Oui, il y en a bien sûr, 3 ou 4 j'exagère, quand même. Bien sûr. Bien sûr, je caricature, bien sûr, mais je voudrais qu'on écoute dans tous les domaines. En fait, je rêverais, je l'ai dit 12 millions de fois, que... Ce qu'on applique dans le sport, où on met des professionnels, c'est Didier Deschamps qui dirige l'équipe de France de football. C'est pas un énarque. C'est quelqu'un qui connaît investir de football, c'est quelqu'un qui a joué, c'est quelqu'un qui sait. Je rêverais que dans le domaine de l'État, on mette des professionnels qui savent de quoi ils parlent.
Monsieur est professionnel.
Oui.
Le problème, c'est un
problème. Isabelle Piboulot. C'est un problème
idéologique, à mon avis. C'est que les politiques sont trop pro-européens. Ils n'osent pas bouger le...
Ils sont, et puis ils sont élus.
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit... Là, ce n'est pas sûr. Bon, Isabelle, pardonnez-moi, on est un petit peu en retard. Il est 10h33.
L'Iran appelle les Occidentaux à apprécier sa retenue face à Israël au cours des derniers mois plutôt que de l'accuser. La communauté internationale a majoritairement condamné l'attaque inédite de samedi. Une riposte selon Téhéran après une frappe sur son consulat à Damas qu'elle impute à Israël. À l'occasion des 100 jours avant les JO, Emmanuel Macron visite ce matin le chantier du Grand Palais à Paris qui accueillera 4 disciplines cet été. Le chef de l'État a prévenu, en cas de menace terroriste, la cérémonie d'ouverture pourrait être limité au Trocadéro, voire au Stade de France, plutôt que le long de la Seine. Des analyses des risques seront faites en temps réel. Enfin, alerte au vent violent dans les Hauts-de-France. Des rafales autour des 100 km par heure sont prévues en raison de la dépression Renata. La Somme, le Nord et le Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange par Météo France.
Merci Isabelle, il faudra que vous reveniez vraiment nous voir parce que c'est passionnant de vous écouter. Par exemple, il y a Marc qui est policier, vous allez me dire s'il a raison ou pas. Il dit « J'ai été en Guyane, on tient 20 km sur 782, on tient rien du tout. » Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est pas l'Europe là.
Vrai. Alors ce n'est pas l'Europe.
Non, c'est bah, Mayotte, c'est pas l'Europe
mais,
non plus.
Mais néanmoins, c'est la France. Oui. Et donc on doit contrôler, maîtriser nos frontières, notre territoire.
Bah oui, mais c'est ça qui est intéressant d'écouter. Donc,
Tout à fait.
C'est pour ça que... Donc en fait, dans tous les domaines, c'est une catastrophe. Quoi.
Si on résume,
non mais
la semaine commence bien.
Mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Pour résumer.
C'est-à-dire que dès que tu touches un domaine, tu t'aperçois qu'on est mauvais. Il faut dire les choses, c'est-à-dire que ça s'appelle on est mauvais.
Non mais le constat ne suffit pas, il faut faire des propositions, je fais des propositions.
Je suis d'accord avec vous, mais moi, par définition, je ne connais pas grand-chose sur ce sujet par rapport à vous.
Ouais.
Il faut toujours être optimiste, la force d'être optimiste et de vouloir être optimiste et de dire toutes les mêmes choses, on sera intraitable, on ne lâchera rien, etc. Et de voir qu'on est nul,
non.
Bah, on n'y croit plus.
C'est tous les jours qu'on gagne. C'est...
Oh non, mais c'est... On n'est pas mauvais, on est très mauvais.
Vous n'étiez pas mauvais, vous étiez très bon. Non, mais c'est vrai, mais c'est désespérant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est désespérant, non, parce que dès que tu as affaire à des professionnels, et on voit bien que vous ne tirez aucune jubilation de ce que vous dites, non. Parce que parfois, il y a les Cassandres qui tirent d'une jubilation, mais on voit bien que vous êtes un professionnel de ces domaines-là, et c'est intéressant de vous écouter. Bon, donc, je vous remercie, on est très en retard. Il est 10h36. Alors, on remercie quand même Miss Confidentielle. On ne l'a pas un entretien exclusif.
Qui, Miss Confidentielle?
Elle est là, Miss Confidentielle, mais on n'a pas le droit. Elle est confidentielle. Donc
c'est
pas
une
le droit
de... journaliste qui m'a aidé.
Mais on n'a pas le droit de dire qui c'est.
À poser les questions.
Elle est Miss Confidentielle. C'est joli d'ailleurs.
C'est le nom de son média, qui est un média en ligne.
Oui.
Et qui est un média généraliste, mais elle s'occupe beaucoup de sécurité.
Mais écoutez, on va la recevoir, cette jeune femme, Miss Confidentielle. Mais elle
ne le sera plus.
Elle ne le sera plus, le problème.
Elle
ne le sera plus. Bon, c'est lundi et c'est le début de la semaine. Vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs. Il y a peut-être des gens qui nous découvrent.
Ils ne le sont plus.
Ah oui, vous étiez en vacances ou...
Oui.
Vous étiez où ?
À Essaouira, au Maroc.
Non, vous n'avez pas bronzé beaucoup.
Ah bon ?
Non. Anouk, vous êtes plus blanc.
Je ne suis pas comme vous. C'est vrai que vous, c'est incroyable. Quand vous revenez d'été.
Vous êtes plus blanc que lorsque vous êtes parti.
Il n'était pas dans l'hôtel.
Anouk était à la réalisation. Nicolas. Pardon ?
Il n'était pas dans un hôtel qui donnait envie de bronzer.
Ah oui. Nicolas était à la vision.
Je suis sûr que vos expériences de vacances intéressent.
Marc Fontaine était au son. Merci à Marine Lançon, à Ferré et Félix Perrolaz qui étaient là. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. On se retrouve demain et vous reviendrez.
Merci, monsieur.
À ce soir.